voyage dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Et justement, avant d'ouvrir le débat sur la situation politique plutôt électrique en RDC, tentons de comprendre un peu plus quelle pourrait être la politique américaine en Afrique avec l'arrivée au pouvoir de Joe Biden. À tout de suite.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Professeur Jean-Emmanuel Pandi, bonjour.
Bonjour Liliane Natcha.
Vous êtes directeur honoraire de l'IRIC, l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, où vous êtes également chef de département politique internationale. Bienvenue dans Décryptage. Sauf rebondissement, Joe Biden sera donc le 46e président des États-Unis. L'Afrique et sa partie subsaharienne particulièrement, devrait-elle se réjouir de l'arrivée du démocrate à la Maison-Blanche?
Moi, je pense qu'il est temps pour nous, les Africains, 60 ans après les indépendances, de ne pas nous placer dans un état de dépendance psychologique. Faut-il se réjouir de l'arrivée de tel? Faut-il se fâcher de l'arrivée de l'autre? Je crois que il faudrait plutôt comprendre que les Américains, les chefs d'État américains, les responsables américains, ont des intérêts qui transcendent
les partis politiques.
Voilà, les partis politiques, et qui restent éternels, et qui concernent l'ensemble des Américains. Et c'est pour ça que le slogan aux États-Unis, pour toutes les personnes qui travaillent dans la sphère publique et pour les États-Unis, c'est « America first ». Et ceci s'applique pour tout le monde. Donc je pense que nous gagnerions, en tant qu'Africains, à comprendre cette donnée fondamentale. Maintenant, il y a des nuances, et surtout le style de monsieur Donald Trump était un style plutôt rugueux et plutôt désobligeant vis-à-vis de l'Afrique, pour ne pas dire plus. Et ça, je pense qu'avec le président Joe Biden...
Retour au code diplomatique.
Voilà, au code diplomatique et à la marche du monde telle que nous avons été habitués à la voir se dérouler.
Et parmi les dossiers brûlants, professeur Pandi, d'après certains experts, il y a la crise actuelle en Éthiopie, la difficile transition au Soudan ou encore la reconstruction de la Somalie. Cette analyse vous semble-t-elle juste?
Oui, ce d'autant plus que, je crois que c'est une analyse qui est correcte, ce d'autant plus que les États-Unis ont été très impliqués dans chacun des dossiers que vous venez d'énumérer. La Somalie, on se rappelle de l'opération dans laquelle qui a tourné en fiasco pour eux, Restore Hope. En Somalie, qui a été plutôt une humiliation pour les États-Unis.
Et qui a coûté la vie à de nombreux soldats américains, d'ailleurs.
Voilà. Ce qui concerne l'Éthiopie, vous savez que depuis le départ de Haile Selassie, en 1974, et bien sûr Kamala Harris, sa vice-présidente, nous aurons des gens qui sont, je dirais, plus urbains. L'Éthiopie avait changé de bord. Elle est plutôt allée du côté du RSS de l'époque. Et maintenant, l'Éthiopie est revenue dans le giron de l'Occident, apparemment. Donc, c'est un pays qui a eu une croissance économique à double chiffre ces 15 dernières années. Donc, c'est un pays intéressant même pour le continent tout entier, sans parler du fait que c'est la capitale diplomatique continentale.
Mais du Sahel, quelle est finalement la place que l'administration américaine, la nouvelle, j'entends, pourrait accorder à la crise sécuritaire dans le Sahel, une crise manifestement hors agenda international?
Oui, d'abord pour le Soudan devrait peut-être regretter le départ de l'ancienne équipe, puisque l'ancienne équipe avait comme objectif de la désinscrire de la liste
des pays soutenant le terroriste.
Voilà, terrorisme et puis l'islamisme extrême.
Mais quand même, contre dédommagement des victimes.
Voilà, c'est vrai. Donc, là, c'est quelque chose qui reste à observer de près, puisqu'on ne sait pas exactement quelle sera la position de l'équipe qui entrante à la Maison-Blanche. Maintenant, par rapport à la crise du Sahel, de toute la région où sévissent les groupes extrémistes islamistes, ou se présentant comme islamistes, parce que là aussi c'est un problème, si c'est vraiment de l'islam qu'ils font, ou bien du terrorisme plutôt. Et je crois que cette problématique se présentera à tous les régimes américains. Pour l'instant.
Pour l'instant, le G5 Sahel, la force qui est censée lutter contre l'Est dans cette région, manque cruellement de fonds, malgré les appels de la France notamment.
Oui, mais vous savez que l'approche américaine a toujours été de demander à ce que ce soit les États-Unis et ses troupes elles-mêmes qui contrôlent, avec, notamment sous AFRICOM. Ce n'est pas de sous-traiter le problème avec le G5 Sahel. Ils contrôlent les opérations, selon leur doctrine. Maintenant, avec la nouvelle équipe, il me semble que des champs de négociation existent qui n'existeraient pas ou qui n'auraient pas été pensables sous l'administration Trump, qui était d'une manière générale assez catégorique et assez égocentré, je dirais.
Professeur Jean-Emmanuel Pondy, merci beaucoup. Vous êtes, je le rappelle, directeur honoraire de l'IRIC, l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, et vous y êtes également chef de département politique internationale. Merci à vous. Au revoir.
Et à bientôt.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Et bienvenue à vous, si vous nous rejoignez, nous allons tout de suite commencer notre débat sur les moyens et les chances du président Tshisekedi de constituer une nouvelle majorité parlementaire afin de se défaire de son allié FCC devenu encombrant, disais-je. Et notre plateau, le voici, Alexandre Kiyedi, président de, et représentant fédéral l'UDPS France, Dieudonné Mwanze, communicateur du Front commun pour le Congo FCC, et nous avons également Patrick Boyo, auteur, juriste, chercheur en droit public à l'Université Paris-Saclay. Bonsoir, messieurs.
Bonsoir, madame.
Alors, je commence par vous, représentant de l'UDPS en France, Alexandre Kiyedi. Deuxième semaine, donc, de large consultation initiée par le président Tshisekedi. Quel bilan tirez-vous déjà de la première semaine? Est-ce que vous êtes satisfait du nombre de personnes et des profils des personnes qui ont été reçues jusque-là?
Justement, nous ne pouvons qu'être satisfaits parce que la situation dans le pays, quand on voit globalement la situation politico-économique, ne marche pas. Il fallait trouver des solutions ailleurs. Et la seule solution pour que tous les Congolais soient investis dans des programmes d'organisation et de soutien à l'économie, aux droits et au social du Congolais, c'est ce large rassemblement, cette consultation-là. Ça permettrait au président de tirer un certain nombre de renseignements par rapport à ce qui s'est passé pendant ces deux ans-là et avoir une idée sur l'avenir. Nous pensons que...
Là, vous justifiez l'organisation de ces consultations. Alors, je demandais, je crois que le président a suffisamment expliqué et votre camp a suffisamment expliqué la raison d'être de ces consultations. Alors, ma question était de savoir le premier bilan. Que vous en faites? Ça fait une semaine, non. Vous avez rencontré des hommes politiques, les représentants de l'église, des églises congolaises. Est-ce que c'est les personnes qui ont jusque-là été reçues sont celles que vous espériez? Est-ce que vous êtes satisfait?
Nous sommes satisfaits, mais à moitié, parce que nous voulions que tout le monde, tous les Congolais soient investis là-dessus. Même si des FCC, nous sommes largement ouverts. S'ils viennent, ils seront bien accueillis et entendront ce qu'ils voudront entendre. Voilà, nous sommes satisfaits. Le bilan est bon, puisque tous ceux qui sortent de cette interview avec le président disent qu'ils sont contents. Ils veulent vraiment continuer à travailler avec le président pour trouver des solutions de l'avenir.
Monsieur Dieudonné Mwanze, vous m'entendez?
Oui, madame, je vous écoute bien.
Le FCC, la coalition FCC, est absent de ces consultations. Vous avez entendu Alexandre Kiyedi dire que leur camp aurait souhaité que tous les Congolais participent à ces consultations. Je suppose qu'il fait allusion au FCC qui n'y participe pas.
Non, madame, écoutez, je crois que là, l'UDP se prêche pour sa chapelle. Ce qui est vrai, c'est que la crise actuelle dans le pays, en République démocratique du Congo, n'est pas une crise sociale. Bon, ce n'est pas dire qu'il n'y a pas de crise chez nous. Nous avons une crise socio-économique, à la fois sécuritaire et même politique. Mais ce qui a déclenché les consultations dont on parle aujourd'hui, c'est la crise politique. Il faut que l'on précise ça bien, puisque ces consultations ont été annoncées par le président de la République, Félix Tshisekedi, au lendemain de la prestation de serment que nous pensons ou nous jugeons être un faux signe au niveau du Palais du Peuple, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, mais en l'absence de deux bureaux du Parlement, donc le bureau de l'Assemblée nationale et le bureau du Sénat. C'est au lendemain de cette prestation de serment que le président de la République a promis un discours à la nation, et lors de ce discours, il a annoncé les consultations nationales ou les consultations politiques.
D'accord, mais pourquoi le FCC boycotte-t-il ces consultations? Pourquoi ne souhaitez pas, votre camp ne souhaite pas rencontrer le président Tshisekedi qui explique qu'il souhaite discuter de la situation politique qui a une véritable impasse avec tous les acteurs congolais?
Madame, nous l'avons dit d'ailleurs à maintes reprises, nous avons fait comprendre au président de la République, à sa famille politique et le CACH, que nous, au FCC, nous étions un partenaire politique important et majeur dans la gouvernance de ce pays. Et que lorsqu'il y a une initiative de mener ce genre de consultations politiques, il fallait que nous puissions
être associés dès le départ.
Oui, qu'on nous associe, puisqu'en principe, nous sommes un partenaire important, nous sommes dans la coalition gouvernementale. FCC CACH et un représentant d'une famille politique comme le CACH ne peut pas mener ce genre de consultations sans nous associer au préalable. C'est ce que nous avions dit.
Qu'est-ce que vous auriez également changé dans ces consultations si vous aviez été associé? Est-ce que vous en auriez changé la forme, vous auriez donné la liste des personnes à consulter? Qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez été consulté?
Nous aurions changé, madame, la forme et le fond. Puisque vous avez écouté le représentant de l'UDP se justifier difficilement, puisque la liste que vous voyez là, des gens qui défilent au palais de la nation, voir le président de la République pour les consultations, on parle de consultations politiques, mais les personnalités qui sont reçues ne sont pas simplement politiques. On voit tout le monde là-bas.
Vous avez le sentiment qu'il s'agit d'une foire?
Nous voyons tout le monde. Donc, ça devient comme une distraction, puisque les personnes qui sont consultées ne sont pas les personnes qui sont à la base de la crise actuelle. La crise actuelle, c'est l'incompréhension entre le FCC et le CACH, puisque nous, FCC, nous avons dit qu'il faut que l'on puisse privilégier le respect des lois du pays.
Est-ce que ce n'était donc pas l'occasion, au-delà de la forme, de vous de répondre présent à ces consultations pour passer ce message auprès de votre partenaire, comme vous le dites, c'est-à-dire le président Tshisekedi?
Je rappelle ici que nous avons toujours eu des consultations avec notre partenaire, le CACH, soit au niveau d'un comité qui existe, que nous appelons le comité de suivi, soit directement entre les deux chefs de ces deux familles politiques, c'est-à-dire l'ancien président Joseph Kabila et l'actuel président Félix Tshisekedi. Mais aussi nous disons, nous l'avons dit dans notre retraite que nous avons eue ici à Kinshasa, d'ici au 8 novembre dernier, nous l'avons dit que nous sommes disposés, nous restons ouverts au dialogue avec le chef de l'État, mais plutôt dans le cadre des structures et mécanismes prévus par l'accord des coalitions, puisqu'il y a ces mécanismes-là.
Merci,
nous sommes disposés à
Monsieur
le faire,
Moinze,
que ce soit dans un cadre approprié.
Oui, on va revenir à vous, hein, puisque vous, de votre côté, vous avez organisé une retraite politique dont vous venez de faire mention. Le temps d'écouter notre invité, Patrick Mboyo. Bonsoir, Patrick.
Bonsoir, Didier.
Alors, vous êtes auteur d'un juriste. Dites-nous, est-ce que vous pensez que, dans le contexte actuel, toute la mobilisation qu'on voit de part et d'autre, c'est-à-dire les consultations côté CACH avec le président Tshisekedi, et de l'autre, la retraite politique dont je parlais tout à l'heure, organisée par le FCC, vendredi et samedi dernier à Kinshasa, est-ce que, dans le contexte actuel, ce type de mobilisation de part et d'autre se justifie?
Pas du tout. Parce que ça n'apporte aucune réponse aux problèmes majeurs auxquels sont confrontées les populations congolaises dans leur quotidien. Cette démarche que les deux camps sont en train de mener, d'une part comme d'une autre, ça consiste qu'à pouvoir traiter d'une question d'humeur. Une question d'humeur entre des partenaires, entre guillemets, qui se retrouve dans une alliance contre nature qui n'aurait jamais dû exister en réalité. Et c'est surprenant de constater la façon dont les deux parties sont en train de brosser le portrait, surtout du côté du FCC. On pose clairement le problème, mais du côté de l'UDPS ou du CACH, on est carrément dans le déni de la démarche qui s'impose dans ce contexte. Parce que justement, le problème avec Tshisekedi, c'est qu'il se retrouve en réalité mis à nu. C'est ce qu'on appelle bas le masque à la fin du bal masqué. On se rend compte qu'en réalité, que le président est enfermé dans une sorte d'alliance contre nature dans laquelle il s'est livré lui-même à l'issue des résultats malencontreux des élections de 2018.
Donc, Oui, mais revenons à la situation actuelle qui est celle de blocage total. Aujourd'hui, comment faire en sorte que les deux parties puissent sauver ce qu'il reste de leur alliance pour faire fonctionner le pays au mieux, puisque là, tout est bloqué, les institutions. Ce matin, nous apprenions que deux ministres qui voulaient se rendre à l'intérieur du pays, deux ministres FCC, n'ont pas pu se rendre. Donc, comment faire aujourd'hui pour que on sorte de ces consultations ou de cette retraite avec des positions moins tranchées, mais plus consensuelles dans l'intérêt du pays, justement.
Malheureusement, j'ai déjà eu à le dire sur vos antennes, dès le lendemain des élections, que nous sommes partis pour 5 ans de vide. C'est la vacuité dans cette affaire de la coalition FCC, ainsi que le cash, parce qu'en réalité, il ne reste rien de cette coalition. Il n'y a rien à sauver, à part le fait qu'il y ait un positionnement entre les deux camps. D'un côté, les supporters de Kabila, qui sont tous les caciques de son régime en tout cas, qui sont restés en place et qui tiennent à y demeurer. Et de l'autre part, Tshisekedi Tshilombo, dans son aspiration personnelle au pouvoir, mais qui se rend compte en réalité qu'un seul homme ne peut pas diriger une nation de plus de 80 millions d'âmes sans avoir une équipe solide et surtout des animateurs dans les institutions.
Donc pour vous, l'alliance doit rester et elle est incontournable.
L'alliance doit rester pour sauver la face en réalité. Parce que là, les masques sont tombés, ils se retrouvent en réalité mis à nu devant la population et ils doivent maintenant composer avec cela. Soit ils persistent ensemble et existent ensemble sur le l'échiquier politique congolais, soit ils disparaissent tous en même temps en se neutralisant les uns et les autres. Mais il n'y aura personne qui peut sortir vainqueur de cette situation, surtout pas le peuple congolais bénéficiaire cette tragique.
Une réaction rapide, Alexandre Kiedi, monsieur Kiedi, avant de marquer la pause.
Moi, je suis quand même triste et outré d'entendre les deux frères parler ainsi, comme si, quand ils parlent de FCC, ils disent le groupe FCC, quand ils parlent du cash, ils montrent les doigts, tu sais qu'ils disent tout seul. Non, le constat est clair. Le peuple a vécu 2 ans de calvaire, il n'y a rien à changer, puisqu'il y a blocage de tous côtés. Regardez même aujourd'hui, ce matin, deux ministres qui voulaient se rendre au Katanga ont été empêchés de partir.
Pourtant, ils avaient une autorisation du Premier ministre.
Voilà. Pourquoi on est arrivé là? C'est parce que lorsqu'il s'agit du partage des postes ministériels ou bien des postes dans les entreprises, l'FCC joue la coalition. Lorsqu'il s'agit maintenant de trouver, parce qu'un pays ne peut pas fonctionner sans projet, sans avoir une idée de quoi l'amener à l'avenir au bon fonctionnement de ses institutions et surtout à garantir à sa population de quoi pouvoir vivre heureux. Lorsqu'il s'agit de ça, il y a tristesse sur tristesse, parce que c'est comme une tombe. Hein. Quand on meurt, on se met dans la tombe.
Merci personne beaucoup. Restez avec nous, monsieur Kiedi. On poursuivra le débat dans quelques instants. Bonsoir, Edouard.
Bonsoir, Liliane. Bonsoir
à tous. Le débat, c'est aussi sur nos réseaux sociaux et vous venez avec des questions de nos auditeurs qui participent sur nos plateformes.
Effectivement, Liliane, et c'est dans quelques instants, bien sûr.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et nous parlons ce soir des chances du président Tshisekedi de former une nouvelle majorité parlementaire dans un contexte de forte crise avec son allié. Et nos invités pour ce débat sont Patrick Boyo, auteur juriste et chercheur en droit public, Dieudonné Mwanze, communicateur du FCC de Joseph Kabila, et Alexandre Kiedi, représentant fédéral UDPS en France. Avant de vous repasser la parole, messieurs, nous allons écouter les questions de nos auditeurs. Édouard Béranger-Ning, on va commencer avec celle de Samuel Baraka.
Samuel Baraka qui demande sur nos réseaux, pensez-vous que la meilleure solution pour le président Tshisekedi est de dissoudre l'Assemblée nationale? Une question qui s'adresse donc à monsieur Alexandre Kiedi.
Monsieur Kiedi?
Écoute. Je disais tout à l'heure là, parce que j'avais pas fini ma réflexion, avec l'FCC, lorsque on se rencontre, on se retrouve pour discuter des postes ministériels, ils sont là en tant que coalisés. Lorsqu'on se dispute, on se rencontre, on essaie d'organiser le pays pour les postes des entreprises et des consorts, ils sont là en tant que coalisés. Mais lorsqu'il s'agit de trouver des solutions, tant en termes politiques qu'en termes économiques et sociaux, pour essayer, non pas essayer pour pousser le bien-être congolais vers l'avant, ils deviennent donc cohabités. Donc, c'est-à-dire qu'ils refusent la cohabitation. Ils deviennent farouches et une cohabitation sauvage nous empêche de progresser. Deux ans sont écoulés. Deux ans, c'est beaucoup en politique. Sont écoulés sans une solution viable pour le bien-être des peuples congolais. Alors, nous sommes obligés de revenir aux fondamentaux. Donc,
d'accord. Est-ce que cela passe par la dissolution de l'Assemblée nationale? Parce que certains estiment que ça aurait été la solution la plus simple, plus que la Constitution, selon ces personnes, en donne le droit au président de la République.
Si, mais pourquoi le président consulte d'abord? Il ne faut pas qu'il devienne dictateur. Hein. Il faut qu'il consulte. Le même peuple, là, on l'a consulté pour devenir président ou pour devenir député. Pourquoi aujourd'hui quand
donc, à l'issue de ces consultations, il pourrait bien dissoudre l'Assemblée nationale, si c'est le seul moyen?
Ouais, je ne peux rien vous promettre maintenant, mais il y aurait quelque chose qui va se passer dans ce pays-là.
Mais si on organise, on dissout l'Assemblée nationale, cela suppose qu'on organise de nouvelles élections. Est-ce que la RDC a les moyens aujourd'hui, éventuellement, si cette option était finalement adoptée, d'organiser une nouvelle élection, une nouvelle consultation?
Nous n'avons encore pas dit notre dernier mot. Nous n'avons pas dit nous allons dissoudre l'Assemblée, non. Mais nous pouvons, nous nous battons, nous travaillons dur pour pouvoir former une autre majorité relative au Parlement afin de pouvoir conduire la politique des peuples congolais vers l'avant.
Former une nouvelle majorité à travers le débauchage des députés, des sénateurs du FCC?
Mais le député n'appartient pas à quelqu'un. Quand on est député du FCC, tu n'appartiens pas à l'FCC. À un moment donné, quand l'FCC ne donne pas de solution, il faut changer. Les députés n'appartiennent pas à l'IDP. Ce sont des Congolais qui vivent avec nous, qui voient l'évolution du pays, qui veulent que le pays marche et qui proposent.
Est-ce que vous ne craignez pas que si vous finalement adoptez la solution de débauchage des députés FCC et si ça marche, est-ce que pour vous ça ne risque pas de poser un problème moral parce qu'un député a été élu sous la bannière de tel parti et puis finalement, est-ce que ça ne vous poserait pas un problème moral et est-ce que demain vous ne pourrez pas courir les mêmes risques?
Est-ce que vous accepterez-vous dans votre pays à vous, dans un territoire qui vous est donné, qu'un groupe de personnes bloque tout le système économique, bloque toutes les institutions afin de faire de ce pays-là un État sauvage?
Donc, heureusement, je ne suis ni débattrice ni politicienne, donc je ne peux pas vous répondre, monsieur Kiedi.
C'est pourquoi j'ai dit, lorsque ça ne va pas, il faut revenir aux fondamentaux, voir quelles sont les erreurs qu'on a faites afin de pouvoir bondir.
D'accord.
Quel est le mal? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi l'FCC ne peut pas venir en consultation? Quel est le mal de cette consultation-là? Parce que ce n'est pas huis clos, c'est ouvert.
Monsieur Moisé vous a répondu, en tant que partenaire, le FCC aurait souhaité être associé dès la base dans l'organisation de cette consultation, mais ça n'a pas été le cas.
Mais puisque l'FCC a convoqué une retraite, ils en savent, et tu peux nous demander les résultats.
Parce d'accord. Que les gens... Je vais justement poser la question. Excusez-moi, M. Kiedi, on va passer la parole à M. Moinze, avec lequel on va évoquer tout à l'heure les résultats de cette retraite. Mais avant, Edouard, on a une autre question qui est justement adressée à M. Moinze.
Justement, Liliane, il y a la question de Tanguy qui demande est-ce que la coalition entre l'UFC et l'UDPS est toujours d'actualité, M. Moinze?
La question de la coalition FCC Cash est toujours d'actualité. Je crois que c'est là la question de votre auditeur.
Oui, il pose la question. Donc, pour vous, elle est toujours d'actualité, cette coalition?
Oui, cette coalition est toujours d'actualité puisque nous n'avons pas encore reçu un message contraire. Nous avons consenti à être dans cette coalition depuis le début de 2019. Et donc, nous y restons puisque nous l'avons fait de manière libre, que ce soit du côté du FCC ou du côté du CASH. Donc, c'est un consentement libre et nous pensons y rester jusqu'à preuve de contraire. Mais si les amis du CASH peuvent penser autrement, c'est à eux de nous le dire de manière ouverte. Et là, je crois il faut que l'on dise que je suis d'accord avec M. Patrick lorsqu'il dit que ces consultations ne peuvent pas apporter des réponses aux problèmes des Congolais. C'est vrai, les Congolais sont butés confrontés à beaucoup de problèmes. Comme je l'ai dit, ce sont des difficultés socio-économiques, des difficultés sécuritaires, surtout à l'est du pays, mais aussi des problèmes politiques. La crise.
Mais justement, Monsieur Mwanze, beaucoup de Congolais de la société civile, notamment, demandent la dépolitisation des institutions parce qu'ils estiment que cette coalition bloque le pays et empêche le pays d'avancer.
C'est une institution qui, au départ, est déjà politique. On ne peut pas dépolitiser l'institution président de la République. On ne peut pas dépolitiser l'institution parlement ou dépolitiser l'institution gouvernement. Ce sont des institutions, au départ, déjà politiques. Bon, je comprends peut-être votre question lorsque vous dites dépolitiser. Ça veut dire quoi? Puisque nous sommes dans une coalition de gouvernance, c'est-à-dire une coalition où il y a des forces politiques importantes. Vous n'allez pas demander à une force de quitter cette coalition ou de ne pas assister à ce partage de responsabilités en termes de la gouvernance du pays. Et là, moi, je suis d'accord avec M. Patrick lorsqu'il dit qu'il s'agit des questions d'humeur et d'état d'âme. Effectivement, c'est une question d'humeur et d'état d'âme puisque le discours à la nation qui a été prononcé par le chef de l'État et même le début des consultations politiques, ça a été le fruit des coups de colère du président de la République. Il ne peut pas piquer des coups de colère puisqu'il a été à une prestation de serment et qu'il n'a pas vu les deux bureaux devant lui dans cette cérémonie. Je crois que c'est ça le problème.
Excusez-moi, M. Mwanze, je vais tout à l'heure que vous nous répondiez sur les conclusions de votre retraite politique, mais je voulais les savoir. Vous parlez de... Vous dites qu'on ne peut pas dépolitiser une institution comme la présidente de la République, il faut un partage de responsabilités, mais ce qu'on constate aujourd'hui, est-ce que beaucoup reprochent à la coalition ou deux coalitions au pouvoir, c'est de vous battre pour défendre vos positions, défendre vos partis plutôt que les intérêts d'une population congolaise meurtrie par plusieurs guerres. Alors, qui aujourd'hui défend l'intérêt du peuple congolais?
Je suis d'accord avec vous. Ce sera le malheur, le constat est amer, puisque au lieu de gérer le pays, nous venons de passer pratiquement 2 ans à nous quereller pour des choses inutiles. Et nous, nous l'avons dit chez nous, que dans cette coalition, nous n'avons pas gagné l'institution numéro 1 de la République, c'est-à-dire le président de la République, mais nous pensons que nous sommes restés ces vigiles des lois du pays et de la constitution du pays. Nous surveillons de plus près le respect des lois et de la constitution du pays. Lorsque les lois ne sont pas respectées, la constitution n'est pas respectée, nous montons au créneau et nous disons attention.
Là, et c'est de tout cela que vous avez parlé lors de votre retraite politique. Et qu'est-ce qui en est sorti?
Ce qui en est sorti, c'est qu'au-delà de ce que nous avons dit, que nous étions disposés à pouvoir dialoguer avec le président de la République dans un format, un mécanisme reconnu au sein de la coalition, mais nous avons aussi décrié ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire la tendance à vouloir constituer une autre majorité en pleine législature, ce qui n'est pas faisable. Ça ne peut pas se faire, je l'entends.
D'accord, merci beaucoup.
Votre invité de l'UDPS, ça ne peut pas se faire puisqu'il y a la Constitution qui interdit en son article 110 que l'on ne peut pas procéder à une sorte de débauchage puisque les députés comme les sénateurs...
Mais en même temps, excusez-moi...
Ils vont renoncer à leur mandat.
Merci, M. Kiyedi. On va écouter Patrick Boyo. M. Boyo, vous êtes là?
Attentivement.
Alors là, encore querelle entre les deux responsables politiques ici. Non, on ne peut pas débaucher, mais c'est pourtant ce que tente de faire le président Tshisekedi. Est-ce que vous pensez que finalement, au bout de ces consultations, il va parvenir à faire basculer la majorité en sa faveur et qu'on assistera à une nouvelle majorité parlementaire?
Je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que les députés qui sont en place, ce sont des personnes qui sont de longue date attachées au clan de Kabila, au clan politique, je l'ai dit, de Joseph Kabila. Et je ne les vois pas.
Mais le FCC n'est pas que le PPRD. Il y a beaucoup d'autres partis politiques qui se sentent, pour certains, aussi mal à l'aise au sein de la coalition FCC et accusent le PPRD de pouvoir imposer sa vision.
Je parle de clan, de clan politique, qui est constitué de plusieurs familles à l'intérieur des familles politiques qu'on appelle des partis. Mais en réalité, ce qui se passe au Congo, un député ne siège pas par rapport aux humeurs de son parti ou par rapport à son leadership. Combien de députés n'a-t-on pas vu quitter leur parti et puis continuer à exercer leur mandat de façon particulière. Ça, c'était une pratique systématique qui était exercée par Joseph Kabila à l'époque pour pouvoir non pas faire des débouchages, mais des dédoublements. C'est-à-dire on crée un parti qui a pratiquement les mêmes logos, les mêmes sigles qu'un parti X, afin de pouvoir prendre des députés qui sont de ces partis et leur donner une couleur particulière, mais tant qu'ils obéissent aux ordres qui viennent de Joseph Kabila ou de ses représentants. C'est ça la difficulté. Et tout quiconque, même un petit enfant qui écouterait cette émission, pourrait se demander mais qu'est-ce que ces gens font ensemble en réalité ? Ils ne sont d'accord sur rien.
La cohabitation semble difficile, voire impossible.
Voire impossible. C'est pour cela que je reviens au péché originel, si je peux me le permettre, c'est d'avoir accepté une alliance contre...
Il a déjà été commis et l'alliance est là, donc qu'est-ce qu'on en fait? Moi, je demandais à notre invité, M. Mouanzé, par rapport à cette perspective de débauchage, il disait que ce n'était pas possible. Vous dites que vous n'y croyez pas. Mais si le président Tshisekedi parvenait néanmoins, au bout de compte, à créer cette majorité, qu'est-ce que cela pourrait se passer? À quoi pourrait ressembler la scène politique? Est-ce qu'on peut retrouver un isolement en quelque sorte du FCC? Ou vous pensez que le FCC pourrait peut-être se rapprocher d'un autre opposant comme Martin Fayoulou pour créer une autre coalition aussi face à celle à la majorité parlementaire?
En réalité, la situation se présente. Votre question est très, très pertinente et permettez-moi de le dire de ce sens et sens, d'autant plus que ça pousse à réfléchir sur la reconfiguration politique actuellement au niveau des assemblées. Félix Tshisekedi sait qu'il n'a aucune issue en dehors des institutions. Même pour dissoudre le Parlement, la Constitution dit que cette compétence n'est pas propre au président, c'est une compétence liée, dans la mesure où c'est le Premier ministre qui doit proposer au président qu'il y a mésentente entre lui et les deux chambres du Parlement. Pas les deux chambres.
Et cela n'est pas envisageable puisque le Premier ministre est issu des FCC.
Et issu du CFCC. Donc le président ne peut pas dissoudre le Sénat, il ne dissoudrait que l'Assemblée nationale. Et pour le faire, le Premier ministre qui est du FCC ne peut pas venir lui dire, Monsieur le Président, avec Madame Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, et l'Assemblée nationale, on s'entend pas.
Jeanne.
C'est inimaginable. Donc il ne peut pas s'en sortir. Voilà pourquoi il se lance dans une consultation qui n'a ni tête, qui est un folklore.
Mais quel est pour vous, donc pour vous, cette consultation, c'est le folklore, et au bout de compte, le président, vous dites qu'il s'engage vers cette consultation, sachant très bien que rien n'en sortira et qu'il finira, au bout de compte, par revenir aux discussions avec le FCC.
Voilà, il reviendra aux fondamentaux, comme le monsieur du FCC l'a dit malheureusement.
Mais il parlait d'une possibilité de dissolution du Parlement.
Mais est-ce que le gouvernement dispose aujourd'hui des moyens d'organiser des élections? Même à supposer que Félix Tshisekedi passe outre sa compétence liée et fait des choses par la force comme il a fait avec la prestation des serments des juges constitutionnels. De quels moyens, de quel budget dispose-t-il pour organiser les élections en dehors 30 jours comme le prévoit la Constitution, voire à la limite 90 jours si on fait une interprétation extensive de la Constitution, on peut aller jusqu'à 3 mois. Mais de quels moyens dispose-t-il? Rien du tout. Est-ce que vraiment ça vaut la peine? La difficulté, c'est qu'il faut que nos amis du cash se rendent compte qu'ils sont dans une dynamique position de faiblesse.
Merci.
Le président règne, mais il ne dirige pas.
Merci beaucoup Patrick Mbouyo. On va marquer une pause, on se retrouve pour la suite des débats consacrés à la crise politique actuelle en RDC.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et vous êtes en direct, il est 18h47 à Paris, une heure de moins en temps universel. Merci de nous écouter à Abidjan et à Brazzaville en FM. Et nous allons poursuivre encore quelques instants notre débat avec nos invités. Alexandre Kiyedi, président et représentant fédéral UDPS en France, Dieudonné Mouanzé, communicateur du FCC, et Patrick Boyo, auteur, juriste et chercheur en droit public. Et nous parlons de cette crise politique au sein des coalitions au pouvoir, CASH et FCC. Monsieur Kiyedi, vous m'entendez? Allô, monsieur Kiyedi?
Oui, je vous entends.
Voilà, donc vous avez écouté les deux autres intervenants qui estiment que toute cette consultation qui est en cours pourrait aboutir à pas grand-chose et que vous risquez de vous retrouver au sein de la coalition CASH à revenir
à la table des discussions avec votre allié?
Nous, de notre côté, nous n'avons jamais dit que nous avons rompu des relations avec FCC.
C'est ce que dit le FCC aussi. On vient d'écouter, monsieur.
Pour que nous puissions être sûrs, voilà, nous assurer que le peuple congolais suit le jeu politique.
Donc, pour vous, cette consultation, c'était une sorte de mise en garde, de menace, de dire au FCC, attention, si vous ne vous faites pas les concessions, nous allons créer une majorité parlementaire.
C'est ce que j'ai dit, moi. J'ai dit du côté de FCC qui nous menace tous les jours, à chaque instant, que nous sommes impropres, que nous avons été colportés, que nous suivons derrière, nous sommes des suiveurs et consorts.
C'est pour ça que je vous demandais, est-ce que cette consultation visait aussi à montrer votre part de votre tour, vos muscles, pour dire, nous allons...
L'IDPS n'a pas combattu pendant une trentaine d'années pour voir la situation du pays telle qu'on le voit aujourd'hui. Non. Nous sommes là, nous devons laisser quand même quelque chose d'indélébile au pays. Donner quand même l'espoir au peuple congolais d'un avenir meilleur. Alors, comme la situation ne va pas, comme l'FCC bloque tout, alors nous, on serait obligés de tirer les conséquences par rapport à tout ça. Et cette consultation-là permettra au peuple congolais de savoir ce qui se passe au juste, et qui est l'auteur de tout, et comment faire en sorte que les choses s'arrangent. Mais nous ne refusons pas de se mettre sur la table. Nous avons peur des personnes. Voilà. De se mettre sur une même table et trouver des solutions.
Mais monsieur Kiyedi, quel est le discours du président Tshisekedi à ses hôtes quand il reçoit les opposants Bemba ou encore Moïse Katumbi? Qu'est-ce qu'il leur dit, les responsables de la CENCO, des églises?
L'essentiel du message, c'est, vous voyez, vous avez vu pendant 2 ans l'IDPS et la coalition au pouvoir. Et vous avez vu aussi, pendant ces 2 ans-là, rien n'a été fait du bien pour le peuple congolais. Qu'est-ce que vous en pensez et où vous voulez-vous qu'on évolue? Dans quel sens? Il pose toutes ces questions-là pour que l'évolution de la situation soit la meilleure, la plus bonne que possible. Donc, c'est-à-dire que c'est au peuple congolais, parce qu'il n'a pas convoqué seulement les notables comme les Bembe Consoli. Il a invité aussi la population tout court, c'est-à-dire que les musiciens, les gens du théâtre, tous ceux qui
les acteurs culturels.
Acteurs sociaux dans ces pays-là, il les a convoqués, il les a invités, il les a entendus. Puisque des fois, en politique, quand on vient, on a des yeux bandés, on dit des choses, on fait des choses, on pense que c'est la population qui les veut, que c'est nous-mêmes. Alors lui, il a voulu savoir, il veut savoir ce qui ne va pas et comment faire pour que ça aille mieux. Voilà. C'est pourquoi il a fait appel à la population. Je répète encore, FCC serait là, ça serait une bonne chose pour ce que nous sommes en coalition.
Donc vous continuez à tendre la main au FCC pour qu'il participe à ces consultations.
Madame, l'IDPS a les mains, les bras grandement ouverts, les mains tendues vers tous ceux qui veulent travailler pour le bonheur, le bien-être des peuples congolais. Si vous venez pour travailler pour le Congo, pour le bien du pays, pour que les peuples congolais vivent mieux, et pour que les familles congolaises mangent du matin au soir, alors nous sommes d'accord.
Merci.
Mais si vous venez, et pour nous
pour vous servir comme certains Congolais...
Alors vous nous trouverez devant vous.
D'accord. Monsieur Kiyedi, une réponse à ce que vient de dire... Non, c'est Monsieur Kiyedi qui vient de s'exprimer. Monsieur Moinze, une réaction au propos de Monsieur Kiyedi qui dit que l'UDPS, c'est-à-dire la coalition, cache tant la main au FCC. Est-ce qu'on peut s'attendre peut-être au sortir de votre retraite qui s'est tenue vendredi et samedi dernier et à l'issue des consultations organisées par le président Tshisekedi, qu'il y a une rencontre au sommet entre le président Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila?
Oui, madame, j'espère que cette fois-ci, vous me donnerez quand même un peu de temps, comme vous le faites avec les autres.
Qu'on vous explique. Ma conviction, c'est que je vous en ai beaucoup donné, monsieur Kiyedi.
Non.
Bouillot. Allez-y, s'il vous plaît.
Ce que je constate, c'est que c'est le contraire, parce que moi, j'ai l'avantage d'être au pays. Je suis au pays, j'ai vu ces difficultés, j'ai vu cette ambiance et cette marche de la coalition, contrairement à ceux qui sont à plusieurs milliers de kilomètres. Donc il est important que dans une émission aussi à la fois pédagogique comme celle-ci, vous puissiez nous laisser le temps de vous expliquer avant de donner...
On aura terminé dans 4 minutes, monsieur Mbouyou.
À l'analyste, puisque il ne peut analyser qu'une situation que nous allons pouvoir présenter. Donc je vous dis qu'à ce niveau où nous sommes, la coalition existe et nous soutenons cette coalition. Mais cette coalition n'est pas une contre-nature. Non, c'est une coalition qui existe comme un peu partout. Il y a toujours eu des cohabitations, soit des coalitions. Et nous, nous avons accepté avec cache librement d'être dans une coalition gouvernementale.
D'accord, monsieur Mouenzé. Est-ce qu'on peut envisager une rencontre prochaine à l'issue de toute cette mobilisation de part et d'autre entre les présidents, le président Tshisekedi et son prédécesseur, Kabila?
Mais malheureusement, vous ne me laissez pas le temps de vous expliquer tout ça. Mais vous parlez de la rencontre. Nous n'allons pas envisager nous une rencontre puisque nous n'avons pas initié les consultations. Je vous ai lu ici une disposition de notre communiqué final de la retraite où nous disons, nous restons disposés, même si les consultations ont commencé sans nous associer, mais nous restons disposés pour répondre à une invitation où nous allons parler des problèmes de ce pays, mais dans le cadre de notre accord politique FCC-CACH, puisque nous sommes dans une coalition. Et contrairement à ce que j'ai tout ça. Il n'y a pas de blocage. Le blocage n'existe pas. Nous sommes présents partout, même là où il faut chercher des réponses au pays. Merci. Pourquoi nous allons bloquer? Nous allons bloquer pourquoi? Quand on a fait le programme des 100 jours d'urgence, est-ce que nous avons bloqué le chef de l'État? Nous ne l'avons pas bloqué et toute la réserve à monnaie que nous avons laissée au niveau de la banque a été dilapidée. Et ça, vous allez insécuriser la monnaie. Aujourd'hui, il y a une inflation impossible dans le pays qui crée l'insécurité sociale au niveau de la population.
Merci, monsieur Mouenzé. Je suis navré. Je vais vous interrompre pour donner 30 secondes à Patrick Mbouyou pour conclure ce débat. Monsieur Mbouyou, je voudrais qu'on scrute très, très rapidement cette arrivée du démocrate Joe Biden à la Maison Blanche. Est-ce que vous pensez que ça pourrait changer quelque chose sur la scène politique congolaise? Puisqu'on dit les États-Unis qu'on assume que les États-Unis soutiennent le camp du président Tshisekedi.
Le maréchal Mobutu avait dit une fois aux opposants congolais, la diplomatie américaine est une machine lourde. Ce n'est pas parce qu'un président arrive un jour que le lendemain ou dans une semaine, la politique étrangère change. La politique des États-Unis depuis George Bush pour la République démocratique du Congo a toujours été la même. Merci. Le pays doit rester en l'état, mais doit servir les intérêts des États-Unis d'abord et de ses alliés.
Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette émission, le grand rendez-vous. Et je suis désolée, il n'y a jamais assez de temps pour ce genre de sujet, mais... Le temps est parti, est terminé. Merci à vous, Alexandre Kiyedi, président et représentant fédéral UDPS France, Dieudonné Mouenzé, communicateur du FCC, et Patrick Mbouyou, auteur juriste. Merci à vous de nous suivre et on reste ensemble.